Bienvenue sur cette chaîne dédiée à la santé environnementale. Je vous remercie pour votre intérêt porté sur ce sujet qui nous préoccupe tous, à savoir l'impact de l'environnement et de nos modes de vie sur notre santé. Je m'appelle Ricardo Rojas, je suis hypnothérapeute et coach au sein du centre de thérapie naturelle Anizen. Situé à Bulle, j'accompagne les personnes hautement sensibles ainsi que celles et ceux qui souffrent de ces maladies émergentes d'hypersensibilité dite environnementale. Dans cette première partie, vous découvrirez les causes et les conséquences des maladies d'hypersensibilité à l'environnement, telles que la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique, l'hypersensibilité chimique multiple ou encore l'électro-hypersensibilité. Je vous souhaite un bon visionnage.
Mais qui sont ces canaris qui sifflent sur nos têtes ? Les hypersensibles sont souvent comparés aux canaris dans les mines de charbon. Au XIXe siècle, alors que l'exploitation des mines de charbon battait son plein, il était fréquent de retrouver un canari au fond des mines. Très sensible aux émanations toxiques, ces gaz tels que le méthane ou le monoxyde de carbone étaient impossibles à détecter pour les mineurs ne bénéficiant pas des technologies de détection modernes. Les canaris servaient alors de détecteurs vivants. Et lorsqu'ils s'arrêtaient de chanter, en général, cela voulait dire qu'ils s'étaient évanouis ou qu'ils étaient morts. Les mineurs se dépêchaient alors de sortir de la mine afin d'éviter une intoxication imminente, voire une explosion, mieux connue sous le nom de coup de grisou. Sous de nombreux aspects, les hypersensibles sont comme ces canaris, des sentinelles et des lanceurs d'alerte. Leur sensibilité parfois extrême leur permet de détecter avant tout le monde et d'avertir du danger qui nous guette. Mais à la différence des canaris d'autrefois, les hypersensibles ne sont pas entendus. Qu'il s'agisse des pouvoirs publics ou du corps médical, rares sont ceux qui prennent au sérieux la menace que représentent pour notre santé les pollutions de toutes sortes, qu'elles soient d'origine chimique ou électromagnétique. L'explosion des maladies chroniques d'origine environnementale en atteste. Notre mode de vie conduit non seulement à la destruction de notre environnement, à l'extinction de milliers d'espèces, mais aussi à une augmentation dramatique des syndromes inexpliqués dont personne ne veut entendre parler, car cela reviendrait à remettre en question notre modèle de développement économique et technologique. Les deux études ci-dessous portant sur les personnes souffrant d'électrosensibilité et d'hypersensibilité chimique multiple nous adressent un message qui a valeur d'avertissement. Nous sommes les canaris dans la mine de charbon. Ce qui nous est arrivé arrivera à beaucoup d'autres, à moins que nous nettoyons notre environnement. Alors n'ignorez pas les avertissements des canaris, car lorsqu'ils auront cessé de chanter, c'est qu'il sera déjà trop tard. L'hypersensibilité Kesako. Tout d'abord, il est nécessaire de préciser ce qu'est l'hypersensibilité en y donnant une définition la plus claire possible. Ainsi, les études portant sur le sujet distinguent deux phénomènes. Celui du terrain de la haute sensibilité et celui des pathologies de l'hypersensibilité. La chercheuse américaine Helen Aron ainsi que les études en psychologie portant sur le sujet désignent le terrain de l'hypersensibilité par Sensory Processing Sensitivity, traduit en français par sensibilité dans le traitement sensoriel de l'information. Les personnes porteuses de ce terrain sont désignées en tant que Highly Sensitive Person, ou HSP, autrement dit, personne hautement sensible. Il est important de noter qu'il s'agit d'un trait de caractère inné et donc d'un terrain génétique et non d'une pathologie. Ensuite, il y a les pathologies de l'hypersensibilité telles que l'hypersensibilité chimique multiple ou l'électro-hypersensibilité. Ces maladies sont également identifiées en tant qu'hypersensibilité ou intolérance environnementale. Ainsi, pour ne pas ajouter davantage de confusion, je distinguerai les deux phénomènes en parlant de haute sensibilité pour désigner le trait de caractère inné et d'hypersensibilité environnementale afin de désigner les pathologies qui, selon les hypothèses, découlent de ce terrain. Finalement, il faut encore mentionner le phénomène d'hypersensibilité utilisé en immunologie, qui est une réponse immunitaire disproportionnée par rapport à un allergène, en d'autres termes, une allergie. Le terrain de la haute sensibilité et les pathologies de l'hypersensibilité sont des phénomènes principalement neurologiques et sont malheureusement souvent confondus avec des allergies. C'est pourquoi on entend souvent parler, à tort, d'allergie aux ondes ou aux produits chimiques. Comme vous avez peut-être pu le pressentir, l'objet de la première partie de cette série « Quand l'hypersensibilité rend malade, l'environnement est-il en cause ?» portera donc sur les pathologies de l'hypersensibilité. Ces maladies sont également dénommées « syndrome neurofonctionnel ». Le premier constat, c'est qu'on a affaire à une valse d'acronymes. il y en a tellement qu'on pourrait en faire un Scrabble. En effet, ces maladies sont essentiellement désignées par des acronymes que seulement quelques connaisseurs et spécialistes ont entendu parler. Cela pose un problème de visibilité et ne favorise pas la sensibilisation du grand public vis-à-vis de l'existence de ces pathologies de l'hypersensibilité. Ensuite, la dénomination de ces maladies est représentative du problème que posent ces syndromes. Ils sont si peu compris qu'ils ont, au cours de l'histoire, continuellement changé de nom. Voici quelques exemples. La fibromyalgie a été alternativement appelée fibrosite, polyanthésopathie, syndrome polyalgique idiopathique diffus ou SPID, rhumatisme musculaire psychogène, etc., etc. Le syndrome de fatigue chronique a quant à lui été appelé maladie d'Islande, Yupi flu, syndrome de fatigue post-virale, épidémique neuromyasthénie, encéphalomyélite myalgique, chronic fatigue and immune dysfunction syndrome, CFIDS, chronic fatigue syndrome, CFS, et finalement, systemic exertion intolerance disease, SEID. On a dénombré près de 20 appellations différentes pour cette maladie, ce qui traduit assez bien l'incompréhension du corps médical et de la communauté scientifique vis-à-vis de cette pathologie qu'ils ne savent pas où classer et dont ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une dénomination définitive. Voici un autre exemple. Afin de désigner l'électro-hypersensibilité, l'OMS a proposé en 2004 d'utiliser l'appellation IEI-CEM ou en anglais IMF pour intolérance environnementale idiopathique attribuée au champ électromagnétique. Or, si cette intolérance est environnementale, l'origine est par conséquent connue. D'autant que si elle est attribuée au champ électromagnétique, c'est bien que la cause a été identifiée. Peut-être pas de façon certaine et définitive, mais avec un degré de certitude suffisant permettant à l'OMS d'adjoindre à la dénomination d'intolérance environnementale les champs électromagnétiques. Le même raisonnement s'applique par analogie à l'IEI-MCS pour intolérance environnementale idiopathique-multiple chemical sensitivity ou hypersensibilité chimique multiple. Cela fait évidemment polémique car ces dénominations comportent une contradiction flagrante qui ajoute davantage de confusion à une problématique déjà complexe. Pour finir, il faut encore citer le syndrome des bâtiments malsains, le syndrome de la guerre du Golfe, la myofasciite à macrophage ou le syndrome de l'intestin irritable qui sont autant de pathologies aux contours mal définis et dont les causes environnementales sont hautement probables. Malgré une littérature scientifique abondante, les hautes autorités médicales et sanitaires ont une compréhension limitée voire inexistante de ces syndromes. Ainsi, rien de mieux n'a été trouvé pour désigner ces maladies que leurs symptômes principaux ou leurs facteurs déclenchants. C'est comme si on appelait le rhume le syndrome de l'éternuement intempestif et de la toux persistante, tandis que l'allergie serait le syndrome de l'intolérance aux plantes à fleurs. Ceci n'est pas sans conséquence, car cela tend à stigmatiser les malades qui sont dès lors perçus comme douillets ou fragiles lorsqu'il s'agit de maladies comportant des douleurs chroniques, de fainéants ou de simulateurs lorsqu'il s'agit de fatigue persistante, ou de paranoïaques ou de phobiques lorsque les éléments déclencheurs sont des parfums chimiques ou des ondes électromagnétiques. C'est dans ce contexte que l'appellation syndrome de fatigue chronique a fait l'objet de nombreuses critiques, car elle s'avère porteuse de préjugés négatifs qui n'avaient pas été anticipés au moment où elle a été choisie. Le docteur Anthony Komarov a d'ailleurs indiqué dans un interview que cette appellation avait été choisie au petit bonheur la chance, par le comité scientifique de la CDC, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, qui est la principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique et dont il faisait partie à l'époque. Ainsi, la pathologie ayant pour symptôme principal la douleur s'appelle la fibromyalgie et celle dont le symptôme principal est la fatigue, le syndrome de fatigue chronique. À noter que cette pathologie est devenue en 2015 le syndrome d'intolérance systémique à l'effort, remplaçant ainsi le symptôme principal par le facteur déclenchant. En parallèle, la pathologie ayant pour facteur déclenchant les odeurs chimiques et l'hypersensibilité chimique multiple, les ondes électromagnétiques et l'électro-hypersensibilité, les bâtiments malsains et les moisissures, c'est le syndrome des bâtiments malsains, tandis qu'une intolérance à certains aliments est le syndrome de l'intestin irritable. Selon certaines hypothèses, il semblerait que la haute sensibilité, plus communément appelée hypersensibilité, relève d'abord d'un terrain biologique et que les pathologies de l'hypersensibilité prennent quant à elles naissance sur ce terrain. La notion de terrain en biologie est un concept parfois mal défini est principalement utilisé dans le cadre des médecines naturelles. Mais on peut dire qu'il s'agit de l'ensemble des systèmes qui, dans l'organisme, permettent à l'homme d'assurer le maintien de l'homéostasie, à savoir le bon fonctionnement de son milieu intérieur face au monde extérieur. C'est non seulement la prédisposition biologique innée d'un individu à développer et à se défendre de certaines maladies, mais aussi sa réceptivité par rapport à son environnement. Le terrain inné dépend donc de l'hérédité, tandis que le terrain acquis dépend de l'influence environnementale. Autrement dit, c'est l'interaction entre les prédispositions génétiques constitutives de nos caractéristiques biologiques innées et les facteurs environnementaux. En médecine conventionnelle, cette interaction est le sujet étudié par l'épigénétique. Le terrain de l'hypersensibilité n'est pas un phénomène nouveau et a été décrit dans la littérature médicale française depuis les années 50 sous le terme de spasmophilie ou de terrain spasmophile et plus récemment rebaptisé trouble neurofonctionnel. Sa définition communément admise est « terrain hypersensible ou hyperréactif aux modifications physiques ou psychologiques de l'organisme ou de son environnement ayant pour conséquence une hyperexcitabilité neuromusculaire ». Bien heureusement, un terrain hypersensible ne conduit pas fatalement au déclenchement d'une pathologie de l'hypersensibilité, mais il semblerait que celles et ceux ayant un terrain hypersensible développent plus fréquemment ce type de pathologie. Mais si un terrain hypersensible pourrait favoriser l'apparition des pathologies de l'hypersensibilité, cela ne veut pas dire que les personnes dont le terrain est normalement sensible soient à l'abri pour autant. Car c'est avant tout les facteurs environnementaux, autrement dit les pollutions de toutes sortes et qui ont envahi notre quotidien, qui sont à l'origine de ces maladies. La décompensation de ce terrain vers la maladie chronique installée survient généralement suite à l'exposition à un ou plusieurs facteurs environnementaux délétères combinés à des périodes d'important stress. L'environnement ainsi que l'hygiène de vie sont donc des facteurs prépondérants pour le maintien de la santé, ce terrain pouvant évoluer vers plus d'équilibre ou vers des troubles neurofonctionnels à des degrés divers. C'est pourquoi une personne atteinte de fibromyalgie ou d'un syndrome de fatigue chronique peut également souffrir d'un syndrome de l'intestin irritable ou d'électro-hypersensibilité et que deux patients atteints d'une même pathologie peuvent présenter une symptomatologie différente de gravité variable. Et c'est bien cette variabilité dans le tableau clinique qui peut être déconcertante pour les médecins confrontés à ces pathologies, d'autant qu'ils n'ont pour la plupart jamais reçu d'informations médicales à ce sujet durant ou après leur cursus de formation. Afin de tordre le cou aux idées reçues, je pense qu'il est important de définir ce que sont les pathologies de l'hypersensibilité et ce qu'elles ne sont pas. Force est de constater que les a priori négatifs concernant ces pathologies sont profondément ancrés parmi la population ainsi qu'au sein du personnel soignant. J'avais donc pensé à un exercice tiré d'un film célèbre où l'on répéterait après moi. Mais que j'ai finalement décidé de vous épargner. Plus sérieusement, l'OMS définit les maladies chroniques comme des affections de longue durée, en général plus de 6 mois, et qui évoluent lentement. Les maladies chroniques sont à différencier des maladies aiguës, car contrairement à ces dernières, elles affectent souvent de multiples endroits du corps et répondent assez mal au traitement. La maladie chronique est donc un état pathologique de nature physique ou psychologique, appelé à durer avec un retentissement majeur sur la vie quotidienne du patient. Ensuite, ces maladies sont de nature dite systémique. Cela veut dire qu'elles affectent les malades dans leur globalité, car ces pathologies consistent en un ensemble complexe d'interactions entre différents systèmes où bien souvent se confondent les causes et les effets. Une cause pouvant produire plusieurs effets qui à leur tour peuvent devenir des causes, perpétuant ainsi le cercle vicieux du stress oxydatif et de l'inflammation. Afin d'appréhender ces pathologies, il faut donc renoncer aux approches réductionnistes traditionnelles qui consistent à décomposer le corps humain en systèmes indépendants tels que le système immunitaire, le système nerveux ou le système endocrinien. Cette approche dépassée dans laquelle baigne la médecine conventionnelle ne s'intéresse que très peu aux interactions existant entre ces différents systèmes qui pourtant fonctionnent de concert. Il convient donc de considérer le fonctionnement dans son ensemble, c'est-à-dire de façon holistique, c'est pourquoi on favorisera les approches thérapeutiques préconisées par la médecine intégrative ou environnementale. Finalement, ces maladies sont de nature multifactorielle, c'est-à-dire que leur apparition dépend de différents facteurs génétiques et environnementaux. Ainsi, une prédisposition héréditaire peut être activée par des facteurs environnementaux, dont par exemple des habitudes de vie ou la pollution. Il convient donc de considérer l'environnement du patient dans son ensemble afin d'y déceler le plus tôt possible les facteurs perpétuants pour tenter d'éviter la chronicisation de sa pathologie. Sur la droite, vous trouverez ce que ces maladies ne sont pas. Ces maladies ne sont pas un effet nocebo, qui est simplement l'inverse de l'effet placebo. Selon Wikipédia, un placebo est un procédé thérapeutique n'ayant pas d'efficacité propre, mais qui agit sur le patient par des mécanismes psychologiques et physiologiques. Ces maladies ne sont pas d'origine psychogène. Psychogène veut dire que la cause de la maladie est d'origine purement psychique et qu'elle n'a pas de cause somatique. Ce qui n'est pas le cas des maladies de l'hypersensibilité, pour lesquelles, nous le verrons plus tard, un nombre considérable de marqueurs biologiques ont été objectivés. Ensuite, ces maladies ne relèvent pas d'hypochondrie. L'hypochondrie est une peur excessive d'un individu concernant son état de santé. Les hypochondriaques présentent une inquiétude excessive et obsessionnelle d'être atteints d'une maladie grave pourtant non diagnostiquée. Finalement, ce n'est pas non plus de la simulation. En effet, comment des millions de gens de par le monde pourraient-ils simuler la symptomatologie précise d'une maladie dont ils n'ont pour la plupart jamais entendu parler ? En somme, les pathologies de l'hypersensibilité existent bel et bien et ne se trouvent pas dans la tête des personnes qui en souffrent. Les études qui suivent devraient achever de nous en convaincre et ainsi, je l'espère, contribuer à faire taire ces préjugés. Pour commencer, prenons en haut à gauche une étude publiée il y a près de 30 ans par la doctoresse Claudia Miller, établissant une claire distinction entre l'hypersensibilité chimique multiple et les allergies. L'étude qui suit établit que dans 80% des cas, la fatigue perçue dans le syndrome de fatigue chronique est diagnostiquée à tort en tant que dépression. La totale inefficacité des antidépresseurs en témoigne. La fatigue dont souffrent les malades n'a rien à voir avec un état dépressif, mais plutôt avec un problème de production énergétique. Ensuite, j'ai reporté ci-dessous la conclusion d'une étude dont les résultats ne sont pas cohérents avec l'hypothèse selon laquelle les formes sévères d'électro-hypersensibilité auraient pour origine un effet nocebo dû à la perception des champs électromagnétiques. Il est donc clair que l'électro-hypersensibilité n'a pas plus à voir avec l'effet nocebo qu'avec une prétendue technophobie. J'ai pour ma part été un gros usager du Wi-Fi et du smartphone et il m'a fallu plus d'une année afin de comprendre que c'est l'usage de ces appareils qui me rendait malade. Il en va de même pour l'hypersensibilité chimique multiple, dont les personnes réagissent à des molécules parfois indétectables par l'odorat, ce qui concorde mal avec le fonctionnement d'une phobie ou d'un effet nocebo. En effet, les nouveaux malades ont pour la plupart du temps aucune conscience d'être en présence de l'élément déclencheur et cherchent désespérément parfois durant des années à identifier cet élément à l'origine de leurs symptômes afin de pouvoir s'y soustraire et ainsi se rétablir. Tout en bas à gauche, une intéressante étude met en évidence l'épreuve scientifique d'un mécanisme de sensibilisation du système nerveux central comme origine du syndrome de fatigue chronique. À noter qu'un phénomène de sensibilisation nociceptive centrale est également fortement suspecté dans le cadre de la fibromyalgie. L'article pose donc, non sans humour, la question suivante. Le problème ne se trouverait-il pas davantage dans le cerveau que dans la tête des malades ? En haut à droite, deux études d'auteurs différents distinguent clairement la fatigue conventionnelle de l'invalidant et accablant épuisement qu'endurent les personnes souffrant du syndrome de fatigue chronique. Et pour terminer, vous trouverez tout en bas à droite un article établissant qu'il existe très peu d'éléments étayant l'hypothèse que le syndrome de fatigue chronique soit d'origine psychogène, autrement dit, qu'il s'agisse d'une maladie psychologique. Il s'agirait plutôt d'un problème de production énergétique et donc d'ATP induit par un dysfonctionnement de la mitochondrie. D'où le titre de l'article, c'est la mitochondrie et non de l'hypochondrie. Je tiens évidemment toutes ces études ainsi que celles qui seront présentées à l'avenir à la disposition des irréductibles sceptiques qui persistent à douter. Avant de poursuivre, je souhaite que l'on s'arrête quelques instants sur la réalité de ce que ces maladies représentent sur le terrain et dans la vie de ceux qui en souffrent. On a tendance à penser que ces choses-là n'arrivent qu'aux autres et en général loin de chez nous. Pourtant, mesdames et messieurs, c'est arrivé près de chez vous. La presse nationale en parle régulièrement depuis des années et à moins de vivre en marge de la société, on ne peut plus ignorer le phénomène. D'où l'incompréhension des patients que de nombreux médecins continuent de psychiatriser lorsqu'ils se présentent en consultation. Ces articles parus dans le 24 heures, l'Illustré ou la Tribune de Genève témoignent du parcours type d'un hypersensible environnemental. Il s'agit de monsieur et madame tout le monde, des personnes en bonne santé apparente, souvent sportifs, intégrés socialement, ayant un travail, une vie de famille, des hobbies, tout ce qu'il y a de plus commun, et pour qui tout bascule du jour au lendemain. C'est alors que débute une spirale infernale, allant de l'errance médicale aux problèmes d'absentéisme au travail, l'incompréhension des proches ou de la famille, qui, emplie de bonnes intentions, nous suggère de nous ressaisir. À cause des douleurs permanentes ou d'un éreintement extrême, d'insomnie ou de maux de tête, pour ne citer que les symptômes les plus courants, s'ensuit rapidement la perte de l'emploi, les problèmes d'argent, les déménagements perpétuels, la rupture sociale, la marginalisation, la précarité, puis l'isolement, voire pour certains, l'exil. Sur l'article de gauche, j'ai témoigné de façon anonyme de cette descente aux enfers. Je l'ai fait à visage couvert car je pensais naïvement pouvoir un jour exercer à nouveau le métier qui était le mien. La discrétion étant de mise dans ce secteur d'activité, je ne souhaitais pas attirer l'attention sur un problème de santé pouvant rebuter un potentiel futur employeur. J'ai donc témoigné, non moins dans l'intention de parler de mon cas, que de faire connaître cette étrange maladie qu'est l'hypersensibilité chimique multiple. Non loin, en Suisse romande, le témoignage de trois personnes électro-hypersensibles ont également été rapportés en 2019 dans le 24 heures. Comme beaucoup d'hypersensibles, leur vie dans le monde moderne est devenue très compliquée. Comme bien souvent, ils doivent revêtir un voile de protection dont ils vivent recouverts afin de préserver leur santé. Il s'agit de combinaisons blindées, tissées de fils d'argent et fabriquées pour bloquer les rayonnements électromagnétiques omniprésents, également appelés électrosmog. Comme le stipule le titre de l'article, l'arrivée de la 5G va encore aggraver leur situation déjà très précaire. Vous pourrez facilement accéder au contenu de ces articles qui sont disponibles sur Internet. Le cas échéant, n'hésitez pas à m'écrire afin que je vous les fasse parvenir. La souffrance a un visage et c'est celui des oubliés de la médecine. Un peu plus loin en Europe et outre-Atlantique, les cas se multiplient de façon exponentielle. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler de cas réels, représentatifs du calvaire que vivent celles et ceux qui souffrent des maladies de l'hypersensibilité environnementale et dont les médias et la presse étrangère s'est fait l'écho. En haut à gauche, publié en 2017 dans le journal Gauche Hebdo, le cas d'Emma Agar. Cette Française, trentenaire, est électro- et chimico-hypersensible et elle a dû fuir toute civilisation pour trouver un refuge précaire dans une forêt de la Drôme. Cette photo prise par le photographe suisse Feu Jean Revillard a été exposée dans la série Onde, point d'interrogation, lors des journées photographiques de Bienne. Le photographe a partagé en France le martyr des personnes électro-hypersensibles vivant dans les zones blanches supposées les préserver des rayonnements électromagnétiques désormais omniprésents. Emma Agar vit reclue depuis 2015 dans un trou perdu au fond d'un vallon, dans une caravane blindée de filets de protection pour bloquer le rayonnement électromagnétique et qu'elle ne quitte plus des mois durant. Le quotidien la décrit comme étant dans une situation sociale extrême, faisant face à des états dépressifs et des angoisses, ainsi que des douleurs permanentes, accompagnées d'importants problèmes de digestion. Elle n'a pas de revenus et survit que grâce à l'aide de proches qui lui apportent de quoi survivre. En haut au centre, le cas de Rolf Ersens est aussi représentatif du quotidien des hypersensibles environnementaux. Vous pouvez trouver le témoignage de ce Néerlandais sur le site seriouslysensitivetopollution.org. Obligé de porter un masque respiratoire avec des filtres multigaz lorsqu'il sort de chez lui, il a décidé de porter un gilet Allergy Patient pour identifier son masque à gaz comme une nécessité médicale ainsi qu'une carte de visite où est écrit « Je souffre d'hypersensibilité chimique multiple et les parfums synthétiques me rendent malade ». Ce dispositif lui est nécessaire afin d'éviter les commentaires et les regards étranges des passants. Ensuite, sur la droite, le cas de Meryn Crofts, dont l'histoire tragique a été présentée en 2018 dans le documentaire de la BBC « Emmy and Me » est aussi touchante qu'éloquente. Cette jeune Anglaise avait une encéphalomyélite myalgique, autrement dit un syndrome de fatigue chronique, et était très sévèrement malade depuis 2011. Elle est malheureusement décédée en 2017 à l'âge de 21 ans. Elle était complètement alitée depuis 3 ans, souffrait d'hypersensibilité à la lumière, au bruit, au toucher, aux odeurs et aux mouvements, et elle souffrait de douleurs généralisées parmi de nombreux autres symptômes. Son hypersensibilité gastro-intestinale l'obligeait à se nourrir par cathéter. Elle est décédée due à la famine en raison du retrait de son cathéter qu'elle ne pouvait plus tolérer à cause de son syndrome. Elle pesait 38 kg à sa mort, qui a été attribuée au syndrome de fatigue chronique. En bas à gauche, aux États-Unis, le cas de Becca Dinerstein, dont le cas a été relaté par la série documentaire Afflicted, parue sur Netflix. Elle souffre du toxic mold syndrome, ce qui veut dire que d'infimes quantités de mycotoxines produites par les moisissures la rendent terriblement malade. Elle est également chimico-sensible et doit donc porter ce masque à gaz dans les lieux publics. Cette jeune Américaine a dû fuir toute civilisation pour aller vivre dans le désert Mojave, au sud de la Californie, le désert étant l'un des seuls lieux où les moisissures sont absentes. Elle vit isolée dans une caravane entièrement évidée dans un confort rudimentaire avec son amie qui prend soin d'elle car elle souffre d'innombrables symptômes. Finalement, sur la droite, toujours en outre-Atlantique, le cas de Whitney Dafoe a aussi ému le grand public. Cet Américain de 37 ans, dont le cas s'est fait connaître par le film documentaire Unrest, paru en 2017. Malade depuis 2004 et sévèrement malade depuis 2012, il est totalement alité depuis 7 ans, nourri par des sondes, incapable de parler, il vit dans l'obscurité de sa chambre, les yeux et les oreilles couverts, trop faible pour bouger, son hypersensibilité est telle qu'il est incapable de tolérer les stimuli. Il était lui aussi en parfaite bonne santé lorsqu'il fut soudainement affecté par le syndrome de fatigue chronique. Il a publié en 2020 un message sur le site de la fondation Open Medicine qu'il était capable d'écrire ce message grâce à la prise d'un médicament qui le soulageait temporairement de ses symptômes. Il souligne l'importance de la recherche qui manque cruellement de financement afin que son cas, comme celui de tant d'autres, ne sombre pas définitivement dans l'oubli. Ces cas démontrent que les syndromes d'hypersensibilité environnementale peuvent affecter n'importe qui et que personne n'est à l'abri. Cela peut autant toucher les femmes que les hommes, jeunes ou plus âgés. L'absence de reconnaissance et de prise en charge par les services de sécurité sociale rend la vie de ces personnes un véritable calvaire. Certains se suicident même, comme le cas de ce jeune anglais musicien diplômé d'Oxford, Michael Nilt, devenu électro-hypersensible et décédé à l'âge de 36 ans par overdose de médicaments, ou encore le cas de ce pasteur allemand, Carsten Oblein, également électro-hypersensible et qui s'est suicidé par noyade en 2013. L'actualité et les mesures de confinement imposées afin de contenir la pandémie de coronavirus peuvent vous donner une petite idée de ce qu'est le quotidien des malades souffrant d'hypersensibilité environnementale. Vivant reclus, barricadés à leur domicile, alités ou en fuite perpétuelle, déménageant des dizaines de fois durant plusieurs années afin de trouver un logement adapté à leur intolérance à un environnement devenu hostile, leur maladie équivaut bien souvent à une sentence de confinement à perpétuité, les agressions issues des technologies humaines ayant envahi notre quotidien, les odeurs chimiques et les ondes électromagnétiques étant devenues omniprésentes. Alors que les débats font rage quant à l'obligation de porter un masque ou à l'interdiction de porter le voile dans la sphère publique, les hypersensibles environnementaux sont, eux, contraints pour des raisons de survie de porter des combinaisons intégrales ou d'imposants masques avec filtre à particules simplement afin de pouvoir aller et venir dans les lieux publics. Exclus de la vie active et sociale, ils ne peuvent plus travailler et donc subvenir à leurs besoins. Leur maladie n'étant pas reconnue par les assurances sociales, ces réfugiés écologiques, exilés de l'intérieur, oubliés de nos démocraties, vivent en paria avec le minimum vital, survivant dans des conditions précaires et grâce à la solidarité des proches. De fait, les situations dans lesquelles ces personnes se trouvent les privent de leurs droits et libertés fondamentales telles qu'édictées par la Constitution ainsi que par la Déclaration universelle des droits de l'homme dont la Suisse est signataire, et ce sans que personne ne s'en offusque. Pour ne citer que le droit à la liberté de mouvement, le droit à la santé et le droit à un logement adapté sont allègrement bafoués. Dans ce contexte, l'exercice du droit à la résistance citoyenne, à l'oppression technologique et à la tyrannie économique, garantie par la Déclaration universelle des droits de l'homme, devient un devoir car nos institutions ne protègent plus les citoyens de l'insatiable course au profit à l'origine de l'actuel désastre écologique et de ce qui s'annonce comme un véritable scandale sanitaire à venir. La solidarité qui s'est fait jour dans le cadre de cette crise de coronavirus démontre que nous sommes capables de nous réunir afin de protéger les plus faibles. Le problème de santé publique que représentent les maladies d'hypersensibilité environnementale concerne pour l'instant qu'une minorité invisible, mais leur nombre croît de jour en jour. Car aujourd'hui, vous êtes peut-être en bonne santé, mais qui peut dire si demain, vos enfants, vos parents ou vous-même ne serez pas à votre tour affectés par l'une de ces pathologies issues d'un environnement malade et qui peut toucher n'importe qui, n'importe quand, car je le répète, nul n'est à l'abri. Je souhaite terminer cette première partie sur un message d'espoir, car la bonne nouvelle, c'est que des solutions existent. Des quartiers construits selon les normes de biologie respectueuses de la santé et de l'environnement, tels que celui de Laimbach dans le canton de Zurich, ou plus récemment celui de Schmitten dans le canton de Fribourg, ont vu le jour, traduisant une prise de conscience de la part de la population et de son attrait pour un habitat durable et respectueux de la santé. Car il est possible pour tout un chacun de mettre en place, souvent au prix d'aménagements très simples à mettre en œuvre, des mesures de protection et de prévention permettant de sauvegarder notre capital santé ainsi que celui des plus jeunes qui sont souvent très exposés et donc les plus vulnérables. Je me ferai une joie de partager avec vous ces solutions. La détection précoce de ces pathologies est essentielle afin d'en objectiver au plus tôt les signes annonciateurs et d'enrayer leur chronicisation. En cas de doute, il est primordial que vous consultiez un professionnel au fait de ces maladies et je reste bien entendu à votre disposition dans ce contexte. Dans les prochaines vidéos, vous verrez comment les thérapies brèves, la pratique de la pleine conscience ou encore la médecine intégrative pourront vous aider à améliorer votre quotidien. L'hypnose ou la méditation ont pour ma part été très salutaires, c'est pourquoi je propose dès aujourd'hui ces solutions dans un cadre thérapeutique. Je vous présenterai aussi les avantages de la reprogrammation neurologique des programmes Gupta ou DNRS pour lesquels je propose également de vous accompagner. Toutes ces solutions, ainsi que les conseils en nutrition et en détoxication, ont été intégrés dans un programme de coaching spécialisé articulant les thérapeutiques de façon cohérente dans le cadre d'une stratégie globale et personnalisée dédiée aux malades d'hypersensibilité environnementale. Finalement, nous proposons aussi dans le cadre du centre Anizen des soins en guérison énergétique et spirituelle permettant d'ouvrir des perspectives nouvelles et de faire appel à des ressources insoupçonnées en vous. Au sein du centre Anizen, nous avons à cœur que cette épreuve devienne pour vous une voie vers le développement personnel et la transformation, car en chaque difficulté, il y a toujours une opportunité à saisir.
Je vous remercie pour votre visionnage et j'espère avoir pu vous sensibiliser quant au sujet de l'hypersensibilité environnementale. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à laisser vos commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends prochainement pour une consultation en hypnothérapie et en coaching au sein du centre de thérapie naturelle Anizen et dont vous trouverez les coordonnées juste après. Je vous souhaite une excellente santé et j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo.